بين غابالك كان الجبال الكبير الجبال الكبير طلعت الغابه.
Alors vous avez une reconnaissance mondiale maintenant, Festival Babelmed?
Et oui.
Spontanément, il y a des gens qui vous adressent des CD pour vous dire on aimerait bien participer au festival d'une façon ou d'une autre d'ailleurs.
Voilà, il y a les artistes effectivement qui postulent du coup pour qui candidatent pour Babel. Et après, on le voit aussi sur le marché. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Là, il y a vraiment tous les continents qui sont représentés. C'est vrai que c'est un impact international.
Donc, sixième édition, les prévisions sont plutôt favorables. On a beaucoup de demandes, notamment sur le plan international. On a été sollicité notamment par le bureau export de la musique française, qui jusqu'à présent était un peu en attente et qui nous ont dit aujourd'hui, Babel Med Music fait partie des top 5 et donc on a des demandes de la part des producteurs.
Alors, le Forum des musiques à Marseille, il y a des équivalents dans le monde. J'imagine qu'il y a d'autres festivals un peu dans le même style. Le Midem, ouais, à Cannes. Ouais. Ouais.
Alors voilà, après, nous, on essaie de... Enfin, c'est pas qu'on essaye, mais on se distingue vraiment dans le sens où c'est tourné vers le spectacle vivant, donc c'est pas l'industrie musicale, c'est pas le marché de l'industrie. C'est vraiment, on met l'accent sur le spectacle vivant, parce que finalement, là, les artistes, pour s'en sortir aujourd'hui, c'est une énorme carte à jouer que de trouver des dates. Donc là, c'est plus dans ce sens-là, quoi. Et d'où le fait qu'il y ait toute cette programmation le soir...
D'accord. Et alors on trouve quand même des groupes locaux.
Doumlari, doumlari, doumlagidi, gidi. La doumlari,
doumlari. Sur la trentaine de groupes, il y en avait 6 de la région. Bien évidemment, je m'en félicite. Mais sans chauvinisme aucun, parce que moi je suis convaincu qu'on est meilleur dans une région quand on est ouvert sur les autres et qu'on donne qu'on fait la place aux autres. Mais en tout cas, c'est très important qu'il y ait aussi des artistes régionaux qui puissent se confronter à cette ouverture. J'en suis d'autant plus content que je vais faire des parallèles qui vont peut-être vous étonner, mais l'été dernier au Festival d'Avignon, il y avait des compagnies régionales qui ont été considérées comme parmi les meilleures productions in Festival d'Avignon in.
C'est vrai qu'on essaye, il y a toujours effectivement quelques groupes de la région PACA pour montrer aussi ce qui se fait au niveau local. Et pour les mettre à la base, finalement, c'est sur la même échelle que tous ces groupes qui viennent du monde. Il y a vraiment des choses superbes aussi qui sont faites au niveau local.
Nous ne sommes pas dans une logique du quota. Nous ne sommes pas du tout dans une logique où nous essayons d'imposer en échange de je ne sais quelle subvention ce genre de choses. Au contraire, nous sommes dans une logique de la confrontation. Et ce sont les comités d'experts eux-mêmes qui ont sélectionné les artistes régionaux qui vont se produire à Babel Med. Donc c'est une démarche qui est profondément artistique. Voilà.
Alors en direct du festival Babel Med Music, je suis avec Manu Théron de Le Corps de la Plana. Le Corps de la Plana qui a gagné un prix.
On nous a décerné un prix qui s'appelle le Grand Prix Babel Med.
Alors, le Corps de Plana, ça fait 10 ans qu'ils existent. Vous êtes domicilié à Marseille.
On est domicilié à La Plaine, exactement, au quartier de La Plaine. Et ça fait 10 ans qu'on existe, qu'on exporte un peu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'extérieur. Ce qu'on pense, nous, de la culture et de la musique.
Et vous chantez principalement en occitan ou exclusivement en occitan ?
Je chante exclusivement en oc, donc c'est du patois marseillais. C'est une des nombreuses variantes, on va dire, de la langue d'oc. Et ça depuis le début, puisque c'est le propos du groupe, en fait, de réappliquer à ce vieux répertoire traditionnel, de lui appliquer une pratique et une ébauche de vision, plutôt qu'une vision qui lui soit, qui le porte et qui lui donne une importance dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une identité que vous revendiquez en chantant justement en Languedoc ?
Aucune. On n'est pas dans un discours identitaire. Personnellement, je nie complètement la notion d'identité, je la récuse. On est dans des notions de culture, ce qui est complètement différent, et de rapport entre les cultures. Et ça, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus fondateur et c'est beaucoup plus enrichissant pour la personne humaine de se fier et de s'interroger sur des cultures que de s'interroger sur des identités. Donc le propos n'est absolument pas identitaire, le propos n'est absolument pas basé sur l'identifiable ou l'identique et le dissemblable. Il est vraiment basé, au contraire, sur ce qui rassemble, sur ce qui fait que les gens peuvent, à un moment donné, s'unir pour combattre la bêtise. On a des chansons qui sont plutôt des reprises, là pour le nouveau spectacle, de textes politiques de la Commune et des grandes années de lutte ouvrière à Marseille, entre, on va dire, sur une échelle très large, entre 1870 et 1950 à peu près. Et c'est une époque à laquelle il y avait énormément de personnes qui écrivaient des chansons en noc sur les combats du quotidien et sur les luttes ouvrières notamment. Et puis il y a des chansons qu'on a écrites nous, qui sont sur les combats d'aujourd'hui qu'on mène, dont je t'ai parlé juste avant, contre la bêtise et contre la notion d'identité. On est 6 chanteurs. Il y a Benjamin Novarino Giana et Rodin Kaufmann qui sont en host. Moi, je m'appelle Manu Théron. Je suis dans une voix qu'on appelle seconde, c'est-à-dire la voix qui fait la mélodie en général. Les autres chanteurs sont Sébastien Spessard qui est en basse et aussi Manuel Barthélémy qui est en bourdon, en mélodie et enfin Denis Sampieri qui est en basse et nous sommes tous aussi percussionnistes. Il n'y a jamais eu de polyphonie en musique occitane à part dans les endroits très retirés comme les montagnes pyrénéennes ou les montagnes du Piémont. Mais sinon, non, c'est aussi une proposition qu'on a eue. On a vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient un désir de reprendre ce répertoire et qui n'avaient pas d'idée ou pas vraiment de confiance dans une façon de les reprendre à plusieurs. C'est des chants qui sont collectifs pour la plupart. Aujourd'hui, qui dit collectif dit polyphonie, qui dit chœur dit plusieurs voix. Et donc, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait réécrire pour ces gens qui aujourd'hui ont envie de chanter ce répertoire. Et pour ces gens qui ont envie de se l'approprier. Tous ceux qui se reconnaissent là-dedans, dans ces luttes, dans ces combats, dans cet imaginaire. Le but, c'est de leur donner une proposition artistique.
Mais le fait comme ça de chanter en occitan, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est quand même un frein pour la compréhension du message? Parce que l'occitan, c'est quand même pas une langue qui est répandue à l'heure actuelle, même en Provence.
Le propos, il est musical. La musique, elle rassemble. Et quelle que soit la langue, l'important, c'est la musique. Voilà. Et par rapport à ça, se poser des questions ou se faire des barrières par rapport à la langue, c'est très très français. C'est quelque chose. Cette question, elle est française, il faut le savoir. C'est-à-dire que dans aucun autre pays au monde, et on a beaucoup tourné dernièrement, sur les 5 continents, dans aucun autre pays au monde, on nous a demandé pourquoi on chante en occitan. Après, il y a des pratiques musicales qui sont différentes, et il y a des pratiques d'écoute de la musique qui sont différentes en fonction des pays où on va. C'est-à-dire qu'en Afrique, on n'écoute pas la musique comme on l'écoute au Moyen-Orient, ou comme on l'écoute en Asie, ou comme on l'écoute aux États-Unis ou dans les pays occidentaux. Il y a des systèmes de représentation de la musique qui sont complètement différents selon les pays. Et ça, c'est à nous de nous adapter et de ne pas imposer des conditions occidentales de représentation. C'est à nous de nous adapter, je pense qu'on en est capable parce que ce qu'on propose est extrêmement léger, donc très, très facile d'adaptation. On a 3 créations en prévision, la création de notre nouveau répertoire personnel, donc du répertoire politique qui est en train de se finir et qui nous donnera lieu à un disque d'ici la fin de l'année. Ensuite, il y a une création avec des musiciens algériens du sud de l'Algérie, de la région de Béchar. Et puis enfin, il y a une création avec des musiciennes, des chanteuses italiennes qui ont un peu le même système, un système musical où c'est basé sur le binôme percussion-voix. Cette création-là aura lieu à la fin de l'année aussi. Donc voilà, c'est nos 3 principaux chantiers musicaux actuels.
Alors malgré une certaine notoriété à Marseille et donc à Bab El Med, ils avaient quand même des difficultés apparemment d'après ce que j'ai pu lire. C'est-à-dire que pour avoir rien que le statut d'intermittent du spectacle, certaines personnes dans votre formation ont des difficultés.
Le système français, il est ainsi fait que si on travaille sur un projet unique, on a beaucoup de mal à s'en sortir dans des musiques de marge comme les nôtres. Les musiques du monde ne sont pas des musiques d'industrialisation de masse, donc par conséquent, on ne bénéficie pas des mêmes avantages au niveau médiatisation que les musiques industrielles, de commercialisation de masse. Donc du coup, c'est vrai qu'on est soumis aux impératifs du statut. Bon, mais moi je ne m'inquiète pas trop en fait, parce que les créations avancent, on est à Babelmed, ça fait 10 ans qu'on existe et 10 ans qu'on est intermittent.
Et là, au niveau des tournées, on a eu beaucoup de dates sur les USA, des dates assez prestigieuses. Le Canada, idem avec les francopholies. On a eu une grosse tournée au Brésil, donc Manu Terron est considéré comme le Che Guevara de la musique occitane au Brésil, c'est une grosse star au Brésil. Pareil, Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Koweït, Israël, Malaisie, La Réunion, la Norvège, la Slovénie, tous les pays d'Europe de l'Est, le Sud également, avec le Portugal, l'Italie, l'Espagne. Et là, le Royaume-Uni, beaucoup de dates, une grosse tournée au mois de septembre aussi en Angleterre. Le problème qu'on a en France quand même au niveau des médias nationaux et locaux, c'est l'utilisation de la langue occitane qui est considérée comme... comme passéiste, comme régionaliste, comme assez fermée, voire élitiste. Alors que c'est plutôt une langue populaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette barrière de la langue à l'étranger. Ils écoutent la musique, ça leur plaît, ils en demandent. Et le New York Times fait des articles dithyrambiques sur le corps de la plane, qu'on a un petit peu de mal, ne serait-ce qu'en presse locale, à obtenir une chronique pour le corps de la plane.
À la sélection de la Babel Music, ça se passe sur une candidature, donc on reçoit plus de 900 candidatures. Et après, tu as un jury, deux directeurs artistiques qui étudient ces candidatures, qui font une première sélection. Et ensuite, il y a un jury professionnel qui est convié, donc une quinzaine de personnes, de journalistes ou de directeurs artistiques de festivals, qui se retrouvent pour faire la sélection seconde, où là, il y a une cinquantaine de groupes qui sont retenus sur les 900 de départ.
D'accord.
Et donc après, parmi ces 50-là, il y a donc les 30 sélectionnés qui en ressortent. C'est essentiellement pour la découverte aussi, donc c'est des showcases de 45 minutes par groupe. Donc ça permet de passer de l'un à l'autre. Généralement, on a moyen de tout voir quand même.
C'est vrai qu'en dehors de Papa Wemba et Gevende, que j'ai pu voir au Festival Mimi l'année dernière, puis bien sûr le corps de la Plana, parce que j'habite à Marseille, mais les autres groupes, je les ai découverts avec le festival.
Voilà, c'est aussi une vraie vocation de cet événement, parce que de pouvoir découvrir 10 groupes dans une soirée des quatre coins du monde pour 15 euros.
Alors il y aura aussi, bien sûr, Yemen Blues, la voix royale du blues yéménite. Alors ça, je l'ai mis aussi, on a pu l'écouter. Alors ça, c'est bien aussi.
C'est génial, Yemen Blues, c'est génial, il a une voix...
Et apparemment, c'est tout neuf, quoi, ils n'ont même pas un CD.
Exactement, ils sont en phase de faire leur premier
album, ouais.
Dans la salle, il y a la fameuse salle des sucres, il y a un chapiteau qui est monté en extérieur, un grand chapiteau, et en intérieur il y a aussi le cabaret, ce qu'on appelle le cabaret, qui est la plus petite salle et qui est une salle d'écoute en fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment, ça touche aussi tous les publics, on peut écouter autant des polyphonies, par exemple le corps de la Plana assis en écoute, que d'autres groupes plus festifs dans la grande salle. Il y en a effectivement pour tout le monde.
Il y en a pour tous les goûts.
C'est un peu cette vocation aussi de permettre à des artistes de faire leurs preuves justement sur scène, devant tous ces programmateurs qui sont venus à Babel Med Music pour après trouver des dates en plus. Enfin, c'est vraiment pour faire une sorte d'émulation autour de la scène. Quoi.
Aussi ce groupe norvégien, là, Sky D.
Original, parce que
c'est hyper, super original.
J'ai l'habitude d'entendre une voix comme ça et si peu instrumentalisée.
Ah, ou ça aussi, ça c'est bien.
c'est parti. Festival Babel Med, ce soir on va pouvoir voir le groupe Aoussa, un groupe marocain qui nous vient de Casablanca. Alors je suis en présence de
Khalid Mokhdar, le chanteur du groupe, chanteur-compositeur, un petit peu parolier du groupe.
Alors comment vous qualifiez votre musique? Parce que apparemment c'est assez difficile de vous qualifier, c'est un croisement de plusieurs styles musicaux. On parle de punk rock, d'ethno rock à la marocaine.
Alors je crois que le terme le plus adéquat ça serait l'alternatif. Je crois que c'est de la musique alternative. C'est le terme le plus approprié, je crois, à ce qu'on fait. Du punk, on en a, mais c'est pas la couleur principale. On en a, c'est comme toutes les autres influences qu'on a. Ça veut dire on fait du hip-hop jusqu'au punk, en passant par du funk, en passant par du reggae, en passant par du... Des musiques qui nous appartiennent, soit à nous, soit à nos voisins, ça veut dire tout ce qui vient de l'Orient. Donc ça c'est le mélange de toutes ces couleurs-là. C'est auquel on essaie, et c'est pas une prétention, c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. On essaie de rajouter à toutes ces couleurs-là une touche identitaire, si je me permets de le dire.
C'est-à-dire une touche identitaire, c'est-à-dire toutes les cultures qui ont par exemple formé le Maroc.
Mais en général, on a vécu avec des parents qui écoutaient du Oum Kulthoum ou du Abd Halim. On a ça, qu'on le veuille ou pas, on l'a. Seulement, est-ce qu'on l'exprime ou non, c'est ça où se pose la question. Donc, par identité, je voulais dire... si on joue du funk comme ce qu'ont fait les Américains il y a 40 ans ou 50 ans, c'est juste en changeant la langue, pour nous c'est pas grand chose. Tu changes juste la langue, il n'y a pas de plus. Donc c'est on essaie de ramener quelque chose qui nous identifie un petit peu, qui nous...
Moi j'ai un exemple là en tête, parce que j'en ai parlé avec un journaliste là de la chaîne marocaine, oui. Et on parlait de Oba Spirit qui avait repris un titre de Motorhead à la sauce marocaine.
Je vais pas dire c'est exactement la même chose, mais c'est la même idée. Sauf que moi j'aime pas faire les comparaisons, hein, chacun il part de ses bases. Seulement nous on est contre le fait d'essayer de creuser dans le cerveau plus que dans le cœur. Il faut qu'on ressente cette chose-là. Il ne faut pas que ça soit seulement réfléchi. Il faut qu'on se dise, ah, là, on va peut-être mettre du bendir, là, ça va faire un petit peu le plus. Non, il faut qu'on ressente ce besoin-là. Sinon, ça, pour nous, c'est pas de l'art. Tu essaies de voir où placer, quel instrument et où le placer pour attirer l'attention ou pour toucher les gens. Nous, il faut qu'on exprime d'abord ce que nous, on a envie d'exprimer.
Et vous dénoncez beaucoup ce qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau du fait qu'ils ne font pas grand-chose pour le peuple.
On dénonce, en gros, on va dire les inégalités devant l'emploi, les inégalités dans la répartition des revenus, les inégalités devant devant la loi. Ce sont ces inégalités-là qui nous font plus parler qu'en d'autres sujets, quoi. Les sujets qu'on aborde, c'est pas des sujets, je vais dire, nouveaux. Ils ont déjà été abordés par pas mal de groupes. Mais seulement, je vais pas dire ce qui nous différencie, mais un petit peu. En tout cas, c'est mon cas, c'est moi qui écris. Lorsque j'écris, je me mets à la place du spectateur, du récepteur ou du... Ok, tu vas parler d'un sujet, mais tu vas pas parler, tu vas le chanter. Donc tu peux aborder un sujet qui a été abordé par pas mal d'autres groupes, mais il y a cette touche-là, c'est ton âme, c'est ta conviction qui va plus toucher les gens que les paroles elles-mêmes. Nous, on est comme ça. On a du mal à parler d'une chose qui fait mal d'une façon directe.
Mais c'est un peu l'esprit rock quand même.
On vise pas les dirigeants. Nous, on parle au peuple. C'est plus une question de civisme. On n'attend rien des dirigeants. En tout cas, on ne peut rien attendre d'eux. C'est une vision pessimiste mais réaliste. Et c'est comme ça. On s'adresse au peuple, aux gens, aux Marocains qui sont là pour parler de problèmes et pour partager des folies et des plaisirs aussi. Il n'y a pas que des problèmes. Hein. Donc, ce qu'on attend des dirigeants, qu'ils nous laissent au moins dire et chanter ce qu'on a envie de chanter ou de dire. Mais ceci dit, il n'y a aucune garantie que ce qu'on fait ne sera pas un jour interdit. Hein. Il n'y a aucune garantie juridique. Ben, tu vas être interpellé pour un truc que tu ignorais, que c'était illégal. Là, tu chantes ce morceau depuis 7 ans et tu le chantais devant des millions de personnes et tout le monde le chantait avec toi. Et là, tu vas être en poursuite judiciaire.
Mais c'est quelque chose qui vous est arrivé déjà par rapport à un titre ?
Jamais, mais on s'attend à ça. Ça, c'est le Maroc. Hein. C'est pas seulement la musique. C'est en général, il y a un fossé énorme entre le théorique et le pratique. Il y a deux lois.
Et est-ce qu'on peut parler au Maroc ou justement à Casablanca d'une scène marocaine ou d'une scène casablancaise au niveau des musiques, au niveau du rock? Parce que je sais que moi, on a parlé de Motoret tout à l'heure, je sais qu'il y a beaucoup de fans de rock aussi.
Oui, il y en a du rock. Moi, si tout à l'heure, je vous ai parlé de nos parents qui écoutaient du Abd Hanim ou de Oum Kulthoum, ils écoutaient aussi Deep Purple et Led Zeppelin. Pour ce qui est scène, déjà, pour parler de scène, il faut parler d'infrastructure. Tout ce qui est artistique, c'est quelque chose qui relève du secondaire, pour ne pas dire tertiaire ou pire.
Non, mais chez nous, parce qu'on a des infrastructures, par exemple, un festival comme Babel Med, est-ce qu'on peut retrouver l'équivalent au Maroc ou à Casablanca?
Non, ben, c'est impossible. Les festivals, pour nous, c'est quelque chose de conjoncturel. La musique comme tremplin pour autre chose, économiquement parlant. Le but, c'est l'argent, hein. Le but, c'est l'argent. La musique, parce qu'elle draine plus d'argent pour les organisateurs qu'autre chose. C'est ma vision des choses. Hein. Je dis pas que c'est comme ça que ça se passe.
En tout cas, c'est la vision d'un artiste quoi, qui a pu participer à des festivals.
Oui. Moi, j'ai des projets un petit peu en parallèle avec ce que je fais avec le groupe. C'est du slam, comme on appelle chez nous, c'est du Zegel.
Du Zegel.
Zegel, Z-A-J-A-L.
D'accord.
Le Z, il est léger. C'est pas ZA, mais c'est ZA. Parce que les mots en français, les lettres, elles n'ont pas de sonorité. Il faut leur rajouter des voyelles.
D'accord.
Si tu mets un Z-A, ça va faire toujours ZA et non pas ZA. Et la même chose pour ma et ma, ça et ça, et la même chose. Une conviction que j'ai, le français, c'est pas pour le chanter. En tout cas, j'arrive pas à trouver la musicalité dans le français. Tout à l'heure, je me suis levé à 5h30 du matin pour aller voir le port. Mais les pêcheurs, ils sont, c'est pas les mêmes, hein, les pêcheurs. Hein. Ils sont paresseux, les pêcheurs.
Ici
les pêcheurs,
ouais, oui. Pourquoi tu dis ça?
À 6h30, il n'y avait aucun pêcheur, non.
Si.
Pour nous, c'est inconcevable.
Quoi, sur le vieux port en train de vendre du poisson, tu vois?
Le vieux port, oui.
Non, mais ils arrivent à 8h.
Il n'y avait aucun pêcheur.
Pourquoi?
À 6h30, chez nous, c'est le marché, il est presque à sa fin.
C'est pas vrai?
Oh, oui.
À nous, il démarre à 8h du matin. C'est Alors Amazigh, il va jouer ce soir au Festival Babel Med Music.
Ouais.
Alors bonjour.
Bonjour à toi, salut à vous.
Alors tu présentes un nouvel album?
Oui, un album qui est sorti le 17 octobre 2009, qui s'appelle Marché Noir. et qui est sorti d'abord en indépendant, puis après chez Iris Music et en distribution chez Iris Music, Harmonia Mundi.
Le style de musique, c'est, ça reste occidental ou c'est un mélange avec tes origines?
C'est plus quelque chose qui est recentré sur des influences plus algériennes, avec des choses assez personnelles, comme des textes de mon père, par exemple, que j'ai mis en musique cette fois-ci. Aussi des textes qui concernaient plus mon exil, mon rapport à l'Algérie, mon rapport au fait que je sois parti il y a 20 ans et qu'aujourd'hui j'ai une identité dans l'exil qui est très ancrée, c'est-à-dire que je suis devenu presque un exilien. Un peu grâce à la musique aussi, parce que, en fait, à l'époque, quand j'étais dans Gnawa Diffusion, je recomposais une sorte de petite Algérie. Ça m'a appris à me passer de mon pays. Et ça m'a tellement appris à me passer de mon pays que maintenant, quand j'y vais, ben, j'ai l'impression que je ne retrouve pas mon pays réellement, parce que ça fait très longtemps que je suis parti. Et parce que je me suis refait un autre univers fait de musique, de choses qui ne sont pas forcément toute la complexité d'une société. Quand je descends en Algérie, j'ai tous les problèmes de l'Algérie qui me sautent à la gueule. Finalement, l'Algérie dont j'ai pris soin et que j'ai voulu reconstituer ici, c'est une Algérie très idéalisée. Donc peut-être que c'est un album aussi de transition vers ça, entre une époque en tout cas où je ne pouvais pas rentrer à cause du service militaire. Pendant 10 ans, je ne suis pas rentré en Algérie. Et puis là, pour moi, c'est autre chose parce que maintenant, j'y vais 4-5 fois par an et je me rends bien compte de la difficulté des choses, de la dureté de la vie, du sabotage permanent, des rouages rouillés, de l'aspect mafieux des choses, de la politique, de la culture, de tout. Voilà, c'est un peu mon truc personnel. Plus qu'une histoire de groupe, c'est pas comme une histoire de groupe.
Le fait d'habiter en France et de retourner en Algérie permet de prendre conscience des gros problèmes qui se passent en Algérie.
En fait, j'en avais conscience, mais en les vivant et en les revoyant à chaque fois, et surtout en ne voyant pas les choses évoluer, ça provoque d'autres choses, notamment dans l'écriture. Aujourd'hui, quand je parle de l'Algérie, j'en parle plus de manière aussi idéalisée. Je pense qu'à l'époque où je savais même pas quand est-ce que je pourrais rentrer, parce que j'étais insoumis, j'avais pas répondu à un ordre d'appel de l'armée. Dans la musique gnawa, il y a beaucoup les chants et les chœurs. C'est très, c'est ça la base de la musique gnawa. C'est le gembri, le karkabou et le chant. Après, on mélange avec d'autres instruments de percussion, la derbouka, des congas, du cajon, des bongos, plein de choses. On mélange avec un instrument typique du chabi algérois qui s'appelle le mandol, qui est à la base un instrument italien, qui est le mâle de la mandoline. En fait, c'est comme une mandoline grave. Sauf qu'il a été transformé en Algérie par le maître du chabi qui s'appelle Hajj Mohamed Al-Anqa, qui a transformé le mandol pour le rendre algérois. Je crois qu'il lui a rajouté deux cordes, quelque chose comme ça. Il l'a transformé en cinq cordes doublées. On utilise aussi des sons de clavier et aussi il y a un DJ qui scratch, mais qui balance aussi beaucoup de sons ethniques. Il y a plein de prises dans cet album qui ont été faites dans des salles de bain, dans des chambres à coucher. On a mis des matelas contre les murs pour mater le son. J'avais pas la contrainte de la production. Là, c'était vraiment sur la route, avec mon ordi, une petite carte son, un micro.
Moi, je voulais vous parler de votre père, Kateb Yassine. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre donc ces poèmes en chanson?
Ben, ce qui a déclenché l'envie, parce que l'envie, elle est là depuis longtemps, mais ce qui a déclenché l'envie, et surtout le fait de se décomplexer par rapport à cette écriture, parce qu'il y avait à la fois le fait que c'est mon père, et à la fois le fait qu'il est mort aussi, qui faisait que j'avais du mal à m'attaquer à cette écriture, en tout cas j'avais du mal à la triturer, j'étais pas à l'aise, j'avais l'impression de le trahir un petit peu. Et il a fallu que je travaille sur une de ses pièces, qui s'appelle « Mohamed prend ta valise », ça s'est passé en 2006-2007, et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Boulawan, DJ Boulawan, qui travaille avec moi aujourd'hui. Et il y avait aussi, dans le cadre du montage de cette pièce, Amar Chaoui et Mohamed Abdennour. Donc tu vois, il y avait juste un musicien qui manquait par rapport à la formation actuelle. Ouais. Pas Gnawa, mais celle-là. Cette formation s'appelle le Poison Rouge. Sim l'Ahmar en arabe. Oui. C'est à l'occasion du montage de cette pièce de théâtre que moi, je me suis immergé dans son écriture. Enfin, en tout cas, re-immergé dans son écriture. Et puis surtout que j'ai eu envie de le faire avec ces gens-là. Que j'ai eu envie de le faire avec Najib, Boulawan, avec Petit Moh, avec Amar, parce qu'ils étaient déjà dans l'histoire. Ça n'a pas été facile, hein. Ça a été une grosse crise de larmes. Après, c'est venu un peu naturellement. Les textes, je les connais depuis longtemps. En les relisant, j'avais plein de mélodies en tête. Puis surtout, j'ai gagné une liberté. Et donc voilà, après c'est arrivé comme ça. Je me suis même freiné parce que j'avais envie d'en faire d'autres. Mais je me suis dit, je vais déjà faire ces deux-là. Mm-hmm. Je vais rester tranquille. J'ai plein d'autres textes à moi qu'il faut que je mette en musique. Il faut que je travaille aussi ma matière. Mm-hmm. C'est une vraie averse. Quand je me mets dans ces textes-là, c'est déjà une averse d'émotions. Et donc forcément, si je commence à faire de la musique dessus, ça dure des heures et c'est super agréable. Ça fait plaisir. J'ai l'impression de discuter avec mon père.
Kateb Yacine, c'est une légende de la littérature algérienne, un des fondateurs. Donc, est-ce que c'est pas dur pour vous de porter ça aussi quelque part en étant son fils ?
Ce personnage-là, tous les gens qui l'aiment le portent. Je suis pas le seul à le porter. Moi, je porte mon père et c'est avec plaisir. C'est pas quelqu'un que forcément tout le monde a lu, parce que c'est pas un auteur très commercial. Mais c'est quelqu'un qui a marqué parce qu'il a justement laissé l'écriture pendant pratiquement 15 ans pour faire du théâtre populaire. Et c'est comme ça en fait qu'il s'est fait connaître. Et en plus, il allait jouer dans les fermes, il allait jouer dans les usines, il allait jouer là où les gens vont jamais au théâtre. En fait, il allait chercher le public. Et donc ça a laissé des traces. Parce que quand t'as une troupe de théâtre qui débarque dans ta ferme, là où t'as jamais vu que des ânes et des chèvres, tu vois, ben ça te marque. Donc tu le racontes à tes enfants et tes enfants les racontent à leurs enfants. Et ça fait des enfants. Et c'est le but. C'est bien. Je pense qu'il y a pas mieux que d'assurer la transmission par soi-même, parce que les livres d'histoire sont truffés de mensonges, et c'est des livres de vainqueurs et de vaincus, et nous, on est des vivants. Peut-être que je vais faire carrément quelque chose où il n'y a que des textes à lui. Je ne sais pas si ça va être vraiment un album ou si ça aura une autre forme, mais j'ai envie de faire un projet comme ça autour de son écriture sur une thématique bien, bien précise. Peut-être faire des liens avec d'autres poètes aussi de la même époque, d'autres pays aussi. J'aime beaucoup Mahmoud Darwish par exemple, je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire. En plus, il y a un poète francophone et un poète arabophone qui sont tous les deux issus de peuples qui ont vécu la colonisation dans leur chair de manière très dure. La colonisation française en Algérie, elle était limite génocidaire aussi. Au début, c'était des massacres de tribus entières parce qu'ils voulaient prendre la place des bédouins qui étaient là. Je chante en arabe essentiellement, en français, un petit peu en anglais. Et sinon, des fois, j'invente des mots aussi quand je trouve pas... Quand je trouve pas un truc, par exemple, j'ai inventé un mot, on dirait de l'anglais, mais c'est pas de l'anglais, c'est chifly. Par exemple, I wanna chifly, ça veut dire je veux faire l'amour. Mais c'est pour camoufler, parce qu'en Algérie, tu peux pas dire à une fille comme ça, je veux faire l'amour. Tu dis I wanna chifly, comme ça, si elle le prend mal, tu dis ça veut pas dire ça. En Kabyle, si, j'ai chanté une fois avec Idir. J'ai fait un petit bout de texte en arabe, puis j'ai mis quelques petites phrases en Kabyle. J'étais très fier. Et puis la dernière fois que j'étais très fier, c'était l'été dernier. J'ai joué à Tizi Ouzou et j'ai repris une chanson de Matoub. Et les Kabyles, ils regardaient tous ma bouche parce qu'ils savent que je ne chante pas en Kabyle. Ils savent que je ne parle pas le Kabyle. Et quand je commençais à chanter en Kabyle, c'était tous là, ils regardaient ma bouche pour voir s'il y avait un playback ou une entourloupe et tout. Mais c'était mortel. J'étais très fier de moi. Attends, c'est pas une langue facile. L'anglais à côté, c'est de la pâte à modeler. C'est vrai qu'il y a une couleur chabi qui est dominante dans cet album, mais je crois pas qu'elle soit majoritaire vraiment. C'est juste que je suis algérois. Je viens d'Alger. J'aurais du mal à être autre chose qu'algérois, bien que ça fait 20 ans que je suis grenoblois. Je me sens toujours grenoblois d'adoption, toujours vraiment algérois. Moi, quand je suis arrivé en France, quand Ben Aknoun, Messonnier me manquait, j'écoutais Amr Zey. Donc c'est ma nourriture. Et tu sais, quand tu invites des gens à manger, tu leur fais quelque chose que t'aimes. En général, tu fais un plat que t'aimes. Et c'est un peu ça qui se passe dans la musique, aussi bien dans Gnawa Diffusion que dans Marché Noir, dans ma nouvelle expérience. Tous les ingrédients que j'ai mis dans cette musique, c'est des ingrédients que j'aime. Pour moi, ma couleur algérienne, c'est le chabi. Ma couleur africaine, c'est Tegnawit. Ma couleur peut-être plus universelle serait le reggae, ou tu vois. Voilà, mais c'est des paliers en fait, c'est juste des paliers identitaires.
De toutes les musiques que j'ai entendues, seule la musique chabi n'a pas été métissée. Tu as pu quand même la métisser parce qu'à un moment, il y avait du hip-hop, il y avait du raga, il y avait même du jazz, du chabi en jazz. Ouais. J'en ai rêvé. Et voilà, c'est la première fois que le chabi a été métissé à d'autres musiques.
Oui. Mais c'est parce que je suis aidé aussi par des gens qui ont la capacité de faire ça. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais j'ai à ma droite le meilleur mandoliste d'Algérie, peut-être même du monde, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent du mandol, tu vois.
Non.
Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance des modes chez Abi qui est hallucinante. Ouais. Il a une connaissance rythmique qui est hallucinante. Et en plus, il connaît la musique occidentale de manière parfaite. Il connaît les modes, il connaît tous les modes mineurs, majeurs, septièmes, je ne sais pas quoi. Et puis, il connaît vraiment Tobot, Al-Musiqa Al-Arbiya, Arfam Hafdom. Donc, quand tu veux faire un travail de mix ou quand tu veux mélanger des rythmiques nouvelles avec des couleurs chez Abi, c'est clair que tu peux très vite tomber dans le bateau ou dans le mauvais goût, parce que si tu n'as pas la maîtrise des modes, si tu n'as pas quelqu'un derrière qui te blinde la maîtrise des modes, parce qu'une fois, une note, dans le Chabi, c'est ça en fait, les modes du Chabi,
ouais, ouais.
Une note change le mode. Donc si tu n'as pas quelqu'un qui a cette maîtrise, et moi je ne l'ai pas, mais je sais que c'est ma lanterne algéroise. Je pense que si je n'avais pas cette personne-là avec moi, je n'amènerais pas cette couleur avec autant d'affirmation et avec autant de présence. Sur cet album, il y a 6 chansons en français, sur 12. Moi, j'ai beaucoup de mal à chanter en français en disant « re », tu vois, ça ne me ressemble pas vraiment.
Donc, je t'adore.
Voilà, je préfère dire… Par exemple, tu vois, tu ne pourrais pas dire « je voudrais être un fauteuil », ça fait con. Par contre, quand tu dis « je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dame », c'est poilu, tu vois, il y a un truc qui fait qu'on sent… que le gars, il a vraiment envie d'aller, tu vois, là-bas.
Et puis là, on a un artiste qui nous vient de l'île de la Réunion, c'est Zorteil. Salut Zorteil.
Ouais, bonjour à tous. Voilà, Zorteil, from La Réunion, un métro exilé là-bas depuis 10 ans. Et moi, je suis originaire du Lot-et-Garonne, et puis je suis parti m'exiler à La Réunion, je fais de l'électro, et puis j'ai été charmé par d'abord la musique réunionnaise, le maloya, tout ce qui se rattache au maloya, c'est vraiment une musique qui est chargée de culture, de douleur aussi, mais qui est chargée de culture, qui a été interdite jusqu'au début des années 80, c'est quelque chose de 1980, quoi, c'était hier. On dit qu'il n'y a pas vraiment eu d'esclaves à La Réunion parce que c'était des volontaires, mais enfin, quand on vous oblige à travailler dans un champ, un coup de bâton, voilà, le volontariat, il a une limite quand même, je trouve. Et en fait, les gens n'avaient pas le droit de parler en travaillant. Et pour pouvoir communiquer entre eux, ils avaient, ils chantaient les choses de la vie. Petit à petit est né le maloya comme ça. Et ça a été réprimé évidemment, puisque c'est devenu un chant un peu contestataire aussi, forcément. Et ça a été réprimé et réprimé jusqu'au début des années 80, c'est hier. Bah, si je fais ça moi aujourd'hui, c'est un peu aussi dans le message de liberté. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, pour que le maloya puisse exister librement dans la rue. Et ça a été vraiment un combat. Il y a des gens qui ont fait de la prison pour ça. À chacun de mes concerts, dès que j'emploie quelque chose de créole, etc., j'ai une pensée pour ces gens-là. Et en général, même d'ailleurs, pour les gens qui se battent pour les libertés. Il y avait une fête de famille, vous faisiez du maloya, eh bien la police était susceptible d'arriver, bien qu'il n'y ait pas de loi, mais la police était susceptible d'arriver et de vous casser les instruments. Le maloya, c'était le chant des esclaves, ça a été assimilé au Parti communiste, c'était très populaire au sens péjoratif du terme, quoi, que de faire du maloya à La Réunion, alors que c'est magnifique, c'est l'âme qui parle, quoi. Il y a une âme dans le maloya. Voilà. Et en fait, mon électro est assez loin du maloya, bien que j'ai fait des morceaux maloya, je me suis appliqué à en faire. Je cherche l'âme, justement.
Alors, Zorteil, tu viens de la métropole, on dit un métropole.
On dit aux oreilles, à La Réunion.
D'où le nom ?
Eh ben, un peu. J'ai des vieux claviers, des boîtes à rythme, et je fais une électro un peu house, un peu tech, un peu trance, un peu maloya. Tout est joué en fait, il n'y a pas de platine, il n'y a pas d'ordinateur, c'est un peu mon défi. C'est à l'ancienne, quoi, des pédales d'effet et quelques claviers, quoi.
Mais il y a une scène musicale, un mélange d'électronique et de musique traditionnelle. Il y a aussi Zong, aussi, de l'île de Réunion.
Yes, ouais. Bon, eux, ils sont barrés vers un peu moins vers le traditionnel aujourd'hui, mais avec leur dernier album Fracture. Là. Mais il y a d'autres gens, il y a Jaco Marron, qui est un pur produit créole, lui. De toute façon, là-bas, à La Réunion, ce qui est magique aussi, c'est que quasiment tout le monde fait de la musique. Il y a des groupes de maloya familiaux, en famille, quoi, avec le frère, le cousin, là, on échange des instruments, pas de problème.
Pour revenir un peu ici à Marseille, comment tu as atterri au festival Babel Med ?
Un peu comme tout le monde, j'ai envoyé un dossier. J'avais déjà rencontré Monsieur Aubert précédemment à La Réunion où je m'étais produit à l'occasion du Sac Il Faut, pas dans le cadre du Sac Il Faut malheureusement, mais à l'occasion du Sac Il Faut, bah, y a des scènes ouvertes un peu autour dans les bars, etc. Et puis voilà, puis je suis motivé aussi pour diffuser ma musique et la partager avec plein de gens.
Tu penses que c'est quand même une ouverture pour pouvoir justement envisager des tournées européennes ?
Ah bah moi pour vous parler franchement c'est le tournant quoi, c'est de mon aventure.
Et dans le salon professionnel également, on a augmenté les surfaces, donc on a 300 mètres carrés de plus, suite aussi à de nombreuses demandes donc de développement de ce salon avec des centres plus petits. Traditionnellement, les années précédentes, on avait une centaine de stands, mais on avait pratiquement le double de structures représentées. On a souhaité donner une visibilité plus grande à tout le monde, donc en créant toute une série de petits stands, ça fait partie aussi des nouveautés.
Alors, je suis au marché de la musique, c'est ça ? À Babel Med Music ?
Oui, Babel Med Music 2010.
C'est la première fois que vous venez ?
Oui, c'est la première fois qu'on a un stand. Oui. Donc nous sommes le Bureau d'Experts National libanais. Nous sommes une association à but non lucratif et accréditée par le ministère de la Culture. Donc du coup, on fédère la scène parce que voilà, chaque artiste est dans un label, chaque label promouvoit un genre de musique. Donc du coup, nous, on réunit tous ces labels et tous ces artistes et on parle en leur nom.
C'est des artistes libanais ?
C'est des artistes libanais, oui. Libanais ou produits au Liban, selon le cas. Parce qu'il y a pas mal d'artistes libanais qui collaborent avec des artistes étrangers.
Et on peut dire qu'il y a une scène musicale au Liban, parce qu'ici à Marseille, on n'en entend pas trop parler.
Ah oui, il y a même une très grande scène, ou plusieurs scènes selon le style, mais oui, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de concerts, de soirées, les artistes jouent très souvent. Non, ça bouge beaucoup, oui, et il y a beaucoup de collaborations avec l'étranger aussi, donc du coup, ils voyagent, Bon, ça, vraiment, ça bouge. On a de la musique traditionnelle, on a du jazz, du reggae, du rap, électro, expérimental, musique traditionnelle revisitée, fusion, world music, on a de tout en fait. On représente toute la scène. Ouais, donc on a un catalogue de plus de 40 artistes, tous styles confondus. Ouais, ouais.
Il y a des artistes qui sont connus en dehors du Liban ? Que tu peux citer ?
Bah, y a des artistes comme Ibrahim Mahalouf ou bien Zad Moutaka, Rabia Abou Khalil, par exemple, ça c'est des artistes libanais, mais bon, qui vivent et sont produits à l'étranger. Et après, il y a des artistes comme Sopkins, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non, là, je ne connais pas.
Mais ce sont des artistes libanais qui ont vécu au Liban, qui sont produits au Liban, mais qui ont percé à l'international. C'est de la fusion, c'est de l'électro mélangé avec du traditionnel. Ce sont des artistes qui tournent beaucoup, qui chaque été ils ont une tournée en Europe. Alors de dire qu'ils ont percé, qu'ils sont connus internationalement jusqu'aux États-Unis, non, mais ils ont du travail, oui. Enfin, ils tournent, oui. Ouais.
À part Babel Med, est-ce que vous avez d'autres opportunités pour essayer de faire découvrir la musique libanaise à travers le monde ?
Bah, déjà on a Womex, donc on a aussi un stand de Womex.
Qui est ?
Qui est aussi un forum musical comme Babel Med, mais qui est plus à l'international. Et après, on a différents festivals ou relations avec des festivals et on essaye un maximum de promouvoir, d'être toujours en contact avec les programmateurs pour voir un peu l'actualité, leurs demandes et voir si on a quelqu'un à proposer. Et on a un site internet et on est très actifs sur internet d'une manière générale. On a une newsletter et on s'associe avec d'autres newsletters aussi pour toujours transmettre l'information. Et on essaye un maximum, autant que possible.
Oui, nous sommes une maison de disques hongroise avec des artistes un peu tout genre et on a fait une sélection d'artistes de musique du monde et de jazz pour Babel Med. Des musiciens hongrois de la plus grande partie, nous avons quelques artistes internationaux, nous avons un pianiste américain avec une formation hongroise, nous avons un groupe avec 6 artistes de 6 différents pays, Pologne, Israël, Serbie, France, Côte d'Ivoire et Hongrie.
Vasarely Péter, propriétaire de Narata Records, une maison de disques hongroise domiciliée à Budapest.
Est-ce qu'ils ont une reconnaissance au niveau, en dehors des frontières déjà de votre pays ?
Quelques-uns, oui. Quelques-uns, oui. Nous avons un groupe qui a fait la Scandinavie, l'Allemagne, donc Danemark, Suède, Allemagne, qui va avoir un tour cette année en Belgique et Hollande. À part ça, nous avons un autre groupe qui a fait plutôt les pays de l'Est, mais qui est passé à la radio en Grande-Bretagne, en Serbie, en Pologne, en Tchéquie, qui a été présent sur une compilation. Mais la plupart d'entre eux, c'est des artistes hongrois qu'on essaye d'exporter.
C'est difficile de les exporter ?
Ah oui, très difficile.
c'est dû à quoi ?
Je crois qu'aujourd'hui, il est difficile de vendre quoi que ce soit. Alors, comme exporter, ça veut dire vendre, avec la situation économique et déjà...
Mais en dehors de ça, il n'y a pas aussi un facteur culturel qui rentre en jeu ?
Le facteur culturel, je ne crois pas. D'habitude, les gens sont ouverts aux autres cultures, ils sont même très intéressés. À mon avis, il y a une demande beaucoup plus importante au niveau public pour la culture des pays de l'Est que ce qui est représenté par les possibilités que ces groupes, ces artistes peuvent obtenir pour le voyage, l'hébergement. Les prix ne sont pas les mêmes ici que dans les pays de l'Est. Donc ce n'est pas à cause de la demande qui manque que c'est difficile de les exporter, c'est au niveau financier.
D'accord. Et alors un festival comme Babel Med, un salon justement, oui. Où il y a un marché de la musique, où on rencontre des professionnels, ça vous aide aussi ?
Nous espérons, c'est pour ça que nous sommes ici. À mon avis, c'est la seule possibilité de présenter les artistes de nos pays, d'autres pays de l'Est aussi, pour la France, pour l'Espagne, enfin aussi pour les autres exposants qui sont présents.
Est-ce qu'il y en a beaucoup, justement, des maisons de disques comme ça en Hongrie qui essayent d'exporter la musique ?
Il y a beaucoup qui essayent, mais il y a très peu qui font quelque chose, qui font le pas. D'habitude, les gens parlent peu les langues, surtout le français. L'anglais, ça va encore. Et il y a une organisation nationale, Music Export Hongrie, qui existe, mais qui marche pas très fort.
Et c'est dû à quoi ?
Même si on est présent sur le marché, une promotion à l'étranger pour les groupes hongrois, c'est pas évident. Et surtout, il faut des concerts, il faut avoir la possibilité d'organiser des tours. C'est ce qu'il faut pour tout le monde, pour le public comme pour les musiciens.
Et est-ce qu'en Hongrie, dernière question, il y a des structures aussi qui aident justement les artistes à émerger ?
Il y a quelques structures de ce genre. Déjà, on peut avoir des différentes subventions pour le voyage, surtout les échanges culturels qui sont subventionnés. Donc, quand on a un groupe... français par exemple, qu'on peut inviter en Hongrie. Dans ce cas-là, on reçoit des financements des instituts culturels hongrois et ça permet aussi aux groupes hongrois de venir en France, par exemple. Il y a les instituts hongrois dans les capitaux en France, à Paris, à Berlin, à Prague, à Madrid. Donc les instituts hongrois font leur travail. À mon avis, le plus important, c'est que les maisons de disques, les managers, les labels indépendants investissent un peu plus d'énergie, surtout pas obligatoirement de l'argent, parce qu'avec peu d'argent et beaucoup d'énergie, on peut aussi avoir les résultats.
Alors là, je suis dans le stand, non, c'est pas Fanfare Vagabondus.
C'est la Korea Arts Management Service, qui est là pour promouvoir des artistes coréens dans le style vraiment traditionnel et des artistes aussi qui composent en fusion entre les musiques traditionnelles et contemporaines.
Et alors, il y a une scène, on peut parler de scène aussi, de musique en Corée, comme on parle d'une scène en France ou dans d'autres pays ?
Les arts traditionnels sont très répandus en tant que culture traditionnelle de la Corée, donc il y a vraiment une scène qui existe. Il peut y avoir aussi bien des formations à tendance jazz, mais donc des reprises traditionnelles à tendance jazz. Annyeonghaseyo ! Oui, il y a vraiment une scène des gens qui sortent d'écoles de musique traditionnelle, aussi bien que maintenant contemporain à tendance occidentale, quoi, et qui aujourd'hui mixent le traditionnel avec
la musique moderne.
Voilà.
Le jazz ou le rock ?
Jazz, rock, ils aiment beaucoup le jazz. Et donc il y a des volontés, enfin il y a des groupes qui se forment vraiment pour jouer aussi bien en Corée que aussi à l'international.
Est-ce que c'est facile de s'exporter quand on est qu'on est issu de ce pays-là, un musicien coréen par exemple.
Oui, ils en ont les moyens, ils peuvent être subventionnés aussi pour aller à l'étranger. Et puis au niveau de l'Asie, il y a vraiment une plateforme aussi de rencontre des musiques asiatiques. Pour eux là-bas, c'est leur marché de musique. Alors il y a une exception par rapport à la France. Le marché ne s'ouvre pas très bien aux musiciens coréens. La raison, je ne la connais pas personnellement. Ils font beaucoup d'efforts, mais on ne sent pas une volonté en France de vouloir écouter de la musique coréenne ou de découvrir la musique coréenne. C'est encore un peu comme quelque chose d'inconnu. Je pense que y a certains groupes coréens qui ont vraiment leur place dans le champ musical en France. Très festif et en même temps qui apporte une touche de culture coréenne qui amène à travers la musique l'âme coréenne et qui est très intéressante à découvrir comme d'autres par ailleurs. Pour la France, ça démarre mais très très doucement.
Dans d'autres pays, ça marche mieux ?
Oui, dans d'autres pays, en Europe même, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Angleterre. Même ce qui reste traditionnel, c'est très intéressant à voir. C'est comme les tambours japonais, qui sont plus invités en France que les tambours coréens, alors que ça se ressemble beaucoup. On a l'air de plutôt choisir le Japon, qu'on connaît plus ici en France, que des tambours coréens, par exemple.
Mais la Corée du Sud, on peut pas. La culture n'a rien à voir aussi avec la culture japonaise.
C'est très différent aussi. C'est différent.
Si t'equivoques, et diuen pobre noi, surt del camí correcte i et diuen paranoic. És absurd, la gent es compara, has retingut cada cara com una polaroid.
En fait, nous, on a un stand qui s'appelle Catalan Music, donc à Babelmed. Nous, on est là depuis la première édition de Babelmed, donc ça fait 6 ans déjà. C'est-à-dire, nous, on est l'Institut catalan des industries culturelles, donc rattaché au ministère de la Culture du gouvernement autonome de la Catalogne. Et notre travail est de faire la promotion et la diffusion des artistes catalans qui travaillent en Catalogne. C'est-à-dire, ils ne sont peut-être pas catalans, mais ils font leur carrière artistique en Catalogne. Et on les aide à se faire connaître au-delà des frontières catalanes. Je trouve que le marché français n'est pas forcément très ouvert. Nous, on travaille beaucoup avec les programmateurs des festivals et des salles. Donc, on édite tous les ans des CD de musique du monde, pop rock, jazz et musique électronique. Justement pour, si on les rencontre, leur donner un petit témoin de ce qui se fait en Catalogne. Mais il y en a qui sont intéressés, mais j'ai envie de dire que les gens qui sont intéressés par la musique de là-bas, c'est des fois des gens qui ont un certain lien personnel. Donc du coup, qu'après ils ont envie de montrer ça dans notre festival. Donc je trouve que c'est pas évident. Déjà que les gens vous répondent, qui vous prêtent un peu d'attention, c'est pas facile.
En tout cas, si vous êtes là pour la 6e année, c'est que vous vous trouvez votre compte.
Mais tout à
avec Babelmed.
Ouais, ça c'est vrai aussi. Mais en fait, nous, on a ce qu'on appelle un stand parapluie. On l'appelle comme ça. Donc du coup, qui accueille des groupes et des entreprises catalanes. Donc nous, on donne le soutien institutionnel, mais c'est pour permettre à ces groupes qui sont en train de commencer. Et aussi à des festivals catalans qui sont là donc aussi avec nous pour montrer aussi ce qui se fait là-bas. Donc on a toujours des retombées positives, donc c'est pour ça qu'on reconduit tous les ans notre participation à Babelmed.
This is a great song for you.
Bonjour, je m'appelle Luc Maïtoukou, je dirige une structure qui s'appelle Zooculture, membre du programme Équation Musique. Donc, nous sommes présents sur ce salon pour la 4e fois maintenant. Et donc nous présentons toutes nos productions, tout notre travail, nos activités en Afrique, pour collaborer avec des partenaires d'un peu partout, tous ceux qui sont sur le Babel en tout cas. On continue à faire grandir ce réseau avec, parce qu'on a eu beaucoup de bons résultats. Voilà pourquoi on est encore là avec Equation Music, avec de nouveaux membres cette fois-ci qui sont rentrés.
Vous représentez quel pays ? Des pays africains, j'imagine ?
Oui, on représente des pays africains, on représente une douzaine de pays quand même. Là, moi, je suis sur le Sénégal et le Congo-Brazzaville. Donc, Luc Yatcheke, côté de moi, il est du Cameroun. Mais sinon, nous avons le Burkina, nous avons le Kenya, l'Afrique du Sud, nous avons l'île Maurice.
Et ça fait combien d'artistes à peu près, Zoo Culture ?
Alors, Zoo Culture, oui, ça représente une dizaine d'artistes en agence. Mais nous ne faisons pas que diffuser des artistes, nous faisons de la formation aussi, du spectacle vivant, régie technique, le management, la gestion d'artistes, les contrats de la musique, etc. Son of Kenya, Omota de Goti well. Son of the nation,
pretty well. Son of Africa, professor. Il faudrait que l'artiste sache comment se comporter sur la scène et même en dehors de la scène. Être capable de pouvoir attirer les diffuseurs internationaux. Comme les artistes européens, ils doivent être à même de susciter l'intérêt des directeurs de festivals européens. Quelquefois, les gars, ils sont des créateurs, les artistes sont des créateurs, et nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de médiateurs. Il n'y a personne pour les suivre, et quelquefois même, ils ont des problèmes pour préparer le matériel de promo. Et nous voulons combler ce vide-là.
D'accord.
Merci.
Merci bien.
C'est moi qui vous remercie.
Je suis un peu obsédé aujourd'hui en termes de réflexion sur comment renouer les liens entre création et éducation populaire, entre l'art et le monde du travail et bien évidemment le monde des lieux qui sont la plupart du temps empêchés, exclus du monde de la culture. En tout cas, la musique. La musique, c'est un grand élément qui permet, en particulier aux jeunes, mais pas seulement, de s'approprier la culture.
Alors on dirait de Babelmed, je suis avec le groupe Urban Swing Sound System. C'est un groupe de la région, PACA ?
Pas du tout. C'est...
Attends, je vais prendre la bonnette parce qu'il y a trop de vent. Sinon, entre nous, vous n'avez pas du son, par hasard ?